Bon, bienvenue à la librairie Olivieri pour la célébration des prix des cinq continents de la francophonie 2008. Permettez-moi de me présenter, je vais être l'animateur de cette soirée rencontre, Jean-Claude Castelin. Agréable privilège, redoutable tâche d'animer cette rencontre entre vous, public lecteur, et le lauréat du prix et les membres du jury du prix. Votre nombreuse présence, de même que la notoriété de toutes ces personnes autour de la table, venues d'horizons divers, donc devant tout cela, je ne veux pas faire d'impair. Donc je vais emprunter à la langue wolof du Sénégal une formule pour vous saluer tous et toutes par vos noms, prénoms, titres et fonctions. Voilà. Un bref rappel pour la librairie Olivieri, qui, depuis cette année, avec la jeune maison d'édition Mémoire d'Encrier qu'anime le poète québécois d'origine haïtienne Rodney Saint-Éloi, on crée un espace francophone. Cet espace est pour rendre accessibles ici les ouvrages d'auteurs des divers lieux de la francophonie. Ensuite, favoriser un échange constant avec le public lecteur. Et enfin, le souci visé étant de susciter un dialogue interculturel marqué du sceau de la diversité, de l'altérité, du respect de l'autre. Et aussi, il y a eu différentes activités cette année. La première a été au Salon du Livre du Québec, dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de la ville, un espace francophone au Salon qui a regroupé une trentaine d'auteurs venus de tous les horizons de la francophonie et qui ont échangé avec le public d'ici, avec les auteurs québécois et aussi, une première, avec les peuples premiers, les nations premières de notre pays. Autre événement, un hommage à l'immense poète Aimé Césaire, qui était rendu ici même, en présence de Patrick Chamoiseau, l'écrivain martiniquais, et l'écrivain congolais Patrick Mabankou. Alain Mabankou, pardon. Aujourd'hui, cet espace accueille avec honneur et une immense joie le lauréat des prix des cinq continents de la francophonie, Hubert Haddad. Pour son roman Palestine, ainsi que les membres du jury, tous écrivains mondialement connus, dont un tout récent prix Nobel de littérature, qui nous font la générosité de leur présence et l'amitié de leur visite au Québec. Je vais aller très vite pour vous présenter les membres du jury, un jury prestigieux, tous des écrivains, et je ne vais pas m'attarder sur leurs nombreuses récompenses et décorations. Pour respecter un bon ordre, on va établir l'ordre alphabétique. Et l'ordre alphabétique me rend service parce que ça commence par la présidente du jury, que j'ai la témérité de présenter. On ne présente pas Lise Bissonnette au Québec, mais enfin, on va être formel ce soir. Elle est journaliste, rédactrice en chef du Devoir, première femme à diriger ce journal. Vous connaissez tous ses éditoriaux qui sont des modèles du genre, l'acuité de son regard sur la société québécoise. Et ensuite, elle a modernisé ce Devoir qui était assez austère, tout en conservant une exigence de qualité et d'excellence. Elle a deux recueils de chroniques à son actif, trois romans, un recueil de nouvelles. Et elle a commencé sa carrière au Québec, on se souviendra, dans le milieu universitaire, une des pionnières de l'UQAM. L'enseignement supérieur l'intéressait, le développement de cet enseignement supérieur public au Québec. Ensuite, elle a pris les fonctions de présidente qu'elle occupe actuellement, de présidente directrice générale de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cette grande bibliothèque qu'elle appelait de ses voeux dans ses éditoriaux et qu'elle a soutenue dès ses débuts. Et puis la francophonie est un autre dada, je dirais, de Madame Bissonnette. Elle a été grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques de Turin. Les Jeux d'hiver, c'était un genre de vérificatrice générale de l'état du français dans la charte olympique et son application dans les Jeux olympiques. Et elle est aujourd'hui présidente du jury des cinq continents de la francophonie. Elle est fidèle à ce jury depuis plusieurs années. Je regrette l'absence de Madame Monique Iboldo, qui s'excuse auprès de vous. Madame Iboldo aussi est écrivaine, mais elle a des fonctions d'ambassadrice du Danemark du Burkina Faso auprès du Danemark. Ça pourrait être l'inverse, pourquoi pas. Et elle est obligée de partir ce soir. Elle nous l'a annoncé cet après-midi. Elle s'excuse de son absence auprès de vous. De même que Henri Lopez, qui était annoncé au programme, ambassadeur, écrivain et ambassadeur du Congo à Paris. Mais le sommet de la francophonie au Québec, il est dans la délégation officielle. Il est obligé de rester à Québec. Je passe maintenant à Madame Vénus Khoury-Gatta, poétesse, nouvelliste, romancière d'origine libanaise. Elle est née dans le même village que Khalil Gibran, dans le nord Liban, et en 72, elle s'installe en France, et elle partage une passion avec deux pays, deux langues, sa langue arabe maternelle et le français, qu'elle va défendre dans tous les coins du globe et à travers sa littérature. Une quinzaine de recueils de poèmes, 15 romans, et son œuvre romanesque est traduite dans de nombreuses langues. Alors, je présente le... Je m'excuse, j'ai pas présenté le dernier ouvrage de Madame Bissonnette. Pas le dernier, non. Quitte ou double, scène de réciprocité. Ces ouvrages sont ici, chez l'espace francophone. Et La Maison des Orties, mais le dernier, c'est Sept pierres pour la femme adultère, que je vous recommande. Ensuite, Pascal Kramer. Genevoise de naissance, elle vit tout bêtement à Paris. Elle est conceptrice rédactrice publicitaire à Zurich, a monté sa propre agence de publicité à Paris et aujourd'hui dirige une agence littéraire, Book to Film, promouvoir les œuvres françaises auprès du marché cinématographique américain. Tout un programme. Elle a 9 romans qui sont publiés, en Suisse d'abord, puis en France, et je pense qu'elle va en faire d'autres, m'a-t-elle dit. Ensuite, je présente Jean-Marie Gustave Le Clésio, né à Nice. Enfance au Nigeria, études en Angleterre et en France, parfaitement bilingue, même il parle d'autres langues aussi, enseigne dans diverses universités du monde, Bangkok, Mexico, Boston, Albuquerque, etc. En 1963, à 23 ans, avec le procès-verbal, un coup de tonnerre dans le monde littéraire, il a le prix Renaudot. 45 ans plus tard, avec de nombreux romans, des essais, des récits, des nouvelles et beaucoup de déambulations à travers le monde, Jean-Marie Le Clésio reçoit le prix Nobel de littérature. Et son dernier roman, Ritournelle de la faim. À ma gauche, Wilfried Sondé. Né au Congo-Brazzaville, émigre en France à l'âge de 5 ans, grandit en région parisienne, brillantes études en Sorbonne et à l'université de Paris-Nanterre. Mais ensuite, il s'installe à Berlin et il mène une carrière, qu'il mène toujours d'ailleurs, de musicien-compositeur. Avec ses frères, il crée un groupe qui s'appelle Wild Congo et il fait du style afro-punk. Et son premier roman, Les cœurs d'enfants léopards, l'année dernière, va avoir le prix des 5 continents de la francophonie. Et c'est sa deuxième visite au Québec. Et plus loin, Lionel Trouillot, né à Port-au-Prince, Haïti. Poète nouvelliste, auteur de 7 romans, auteur de textes de chansons, dont pour Toto Bissint, la grande diva de la chanson haïtienne, décédée il y a quelques années, et qui a un petit parc sur la rue Jean Talon à Montréal. Professeur de littérature, journaliste, cofondateur de revues, a écrit également, en plus d'écrire en français, il a écrit aussi de la poésie en créole haïtien. Donc son dernier ouvrage, L'amour avant que j'oublie. Donc voilà pour le panel. Et je vais tout de suite inviter la présidente du jury, Mme Lise Bissonnette, à présenter ce qu'est le prix des 5 continents de la francophonie. Mme Bissonnette.
Dans le micro, voilà.
Oui, si on peut parler dans le micro, parce que c'est enregistré sur une radio Internet qui nous diffuse sur Internet, en plus.
C'est très bien.
On n'arrête pas le progrès.
Alors, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que je parle au nom des membres du jury en vous disant à quel point nous sommes heureux de nous retrouver dans cette magnifique librairie. J'ai assez dit à mes collègues l'estime que j'ai pour la librairie Olivieri qui mène à Montréal un travail d'animation littéraire extraordinaire. Et je crois qu'ils en ont la preuve ce soir, ceux d'entre eux qui ne connaissaient pas cette librairie. Donc, nous sommes très, très heureux de nous retrouver ici. Et c'est le genre de rencontre que ce jury aime. Je le connais depuis 7 ans. Le prix existe depuis 7 ans. Et le jury est presque permanent. Il y a eu très, très peu de changements au sein du jury depuis. Quel est ce prix? Il a été créé par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, la toute première sélection, je crois, c'était en 2001, c'est ça, en 2001. Et il a été, il s'appelle le prix des 5 continents, justement parce qu'il s'adresse aux 5 continents et il cherche à couronner une œuvre écrite en français. Qui proviennent de l'un des 5 continents de la francophonie. Donc, en cela, ils diffèrent de beaucoup de prix dans l'espace francophone, qui ont tous leurs particularités. Celui-ci est vraiment prix de création qui s'adresse à tous les écrivains de langue française de la francophonie. Donc, depuis 7 ans, il a couronné chaque année un roman qui peut être un premier roman, comme il peut être aussi un roman d'une personne qui a déjà publié. Le processus est très long et vous allez le voir très rigoureux. Au début de l'année, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, on a nos jargons comme ça, l'OIF donc lance un appel à tous les éditeurs, en fait tous ceux qu'on connaît dans le monde francophone. Donc c'est assez laborieux, vous comprenez bien, de repérer tous les éditeurs parce qu'il y a les grands éditeurs qui sont bien connus, mais il y a des centaines de maisons d'édition dans le monde francophone qui sont beaucoup moins connues. Il faut donc les repérer, leur écrire et leur demander d'expédier des livres et de les proposer au prix des 5 continents de la francophonie. Une fois cela fait, je rends hommage ici à Mme Myriam Sangorba qui est avec nous et qui est la coordonnatrice de l'ensemble de cette opération au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Une fois cela fait, quand les livres arrivent, là je passe par-dessus bien des opérations, ils sont remis à des comités de lecture qui font pour nous, parce que nous n'en lisons que 10, mais il en arrive donc plusieurs dizaines, et il est remis à des comités de lecture qui se répartissent le travail. Ils ont de très nombreux exemplaires et ils se répartissent le travail, le font lire par des gens. Ces gens, il y a 3 comités de lecture, en fait. Il y a des représentants de ces comités de lecture avec nous ce soir. L'Association du prix du jeune écrivain en France, qui est à Muret, dans le sud de la France, et qui elle-même est une association qui s'occupe d'un prix littéraire destiné à de jeunes écrivains francophones. Donc, ils sont déjà très actifs en francophonie. Et c'est cette association qui sert de comité de lecture en France. L'Association des écrivains du Sénégal, dont les représentants sont également ici ce soir, l'Association des écrivains du Sénégal, donc, pour l'Afrique et le comité de lecture. Et je vous fais remarquer que ces gens-là ne lisent pas que les livres qui viennent de leur continent. Là, ils lisent l'ensemble des livres ils se répartissent entre plusieurs lecteurs, l'ensemble des livres qui parviennent des éditeurs en nombreux exemplaires chez Mme Sangorba. Et le comité des écrivains d'écrivains de Lanaudière, donc, qui s'appelle en francophonie Canada-Québec. Vous connaissez cette appellation francophone qu'on a pour nous, qui s'appelle Canada-Québec, donc le collectif des écrivains de la Lanaudière qui existe depuis 6 ans et qui est composé d'écrivains, mais aussi de professeurs de littérature et qui sert de comité de sélection au Québec. Donc, ces comités se réunissent ensuite au cours de l'été après qu'ils aient terminé cet ensemble imposant de lecture et ils proposent au jury une dizaine d'ouvrages que nous devons tous lire. Et notre délibération a eu lieu le 26 septembre dernier à Paris, et le prix est remis chaque fois qu'il y a un sommet de la francophonie, il est remis dans le pays où a lieu le sommet de la francophonie à l'occasion du sommet de la francophonie. Donc c'est la raison qui explique que le prix du jury, le prix des 5 continents soit remis cette année à Québec et a été remis à Québec. D'ailleurs, nous étions à Québec il y a 2 jours tous ensemble pour la remise du prix à Monsieur Haddad. D'ailleurs, je m'empresse de dire aussi que ce jury est formé d'une sorte de jury permanent. mais que le lauréat de l'année en cours, par exemple, M. Haddad, sera membre du jury pour un an l'année prochaine, tandis que M. Sondé faisait partie du jury de cette année, puisqu'il était le lauréat 2007. Donc, et l'année où il n'y a pas de sommet de la francophonie, le prix jusqu'à maintenant a été remis à Bruxelles, mais nous pensons, nous suggérons à l'OIF actuellement de le faire tourner sur d'autres continents. Je vais simplement terminer en disant que nous souhaitons une participation plus forte. Ce prix, il faut du temps pour établir la personnalité d'un prix, pour établir sa notoriété. Et je dois dire qu'avec ce qui nous est arrivé cette année, nous sommes plutôt ravis. Nous avons dit à Jean-Marie Leclésio qui faisait grandir le prix des cinq continents de la francophonie. Nous nous installons derrière le prix Nobel en espérant profiter un peu de l'occasion. Et d'ailleurs, c'est très vrai que ce prix Nobel éclaire l'ensemble de la littérature francophone, puisque M. Leclésio, évidemment, est quelqu'un qui incarne lui-même cette diversité culturelle à l'intérieur de l'espace francophone. Donc, et nous espérons une participation plus grande des éditeurs un peu partout dans le monde. C'est notre plus grand souhait actuellement, bien que la participation soit acceptable actuellement, elle n'est pas suffisante encore. Donc, plus le prix sera connu, plus les éditeurs participeront, plus nous pourrons faire connaître des écrivains sur la scène internationale grâce à l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà.
Merci, Madame Bissonnette. Je vais vous présenter brièvement Hubert Haddad.
J'ai oublié une chose.
Allez-y.
Pardonnez-moi, vraiment, puisque c'est un peu informel cette chose, parce qu'on m'a vraiment demandé de le faire, puisque la librairie Olivieri a eu la gentillesse de mettre en vente là, sur les tables l'ensemble des livres qui étaient finalistes cette année. Je vous dis donc très rapidement quels étaient les 10 finalistes cette année du prix des cinq continents de la francophonie. Donc, l'un, Abreuvons nos sillons, de Skander Kali, et qui a été publié aux éditions du Rouergue en France. La princesse et le pêcheur, de Mintra Tran Nguyen, qui vit en France, mais qui vient du Vietnam, aux éditions Actes Sud. Le dernier frère, de Natacha Apana, de l'île Maurice, qui a été publié aux éditions de l'Olivier. Le passé devant soi, de Gilbert Gatoré, du Rwanda, publié aux éditions Phébus. Les voleurs de rêves, de Bachir Hadjadj, d'origine algérienne, qui vit en France, aux éditions Albin Michel. Ma robe n'est pas froissée, de Corinne Hex, de la communauté française de Belgique, aux éditions Les Impressions Nouvelles. Nous, enfants de la tradition, de Gaston-Paul Effa, qui est un Camerounais d'origine qui vit en France et qui a publié aux éditions Anne Carrière. Palestine, bien sûr, dont vous entendrez parler beaucoup ce soir. Paris, l'autre désert, de Mohamed Mokedem, d'Algérie, aux éditions Mokedem. Et du Québec, Tableau maudit, de Philippe Ben-Simon, publié aux éditions Triptyque. Voilà, vous voyez que beaucoup de maisons d'édition sont moins connues que d'autres, et c'est un peu ce que nous voulons encourager aussi. Merci.
Merci, Madame Bissonnette. Donc, présenter Hubert Haddad, le lauréat du prix des cinq continents. 40 ans d'écriture, regardez la bibliographie, je ne vais pas vous la lire. Ce monsieur a beaucoup publié. Et il est né à Tunis, d'un père tunisien, alors tailleur de pierre, et d'une mère d'origine algérienne. Il a suivi l'exil de ses parents quelques années plus tard, à Ménilmontant, à Belleville, et dans les banlieues populaires parisiennes. Enfance qu'il évoque d'ailleurs dans son récit « Le camp du bandit mauresque » que vous trouverez chez Fayard, 2005. Après ses études, il est instituteur en ce qu'on appelle pudiquement classe pratique, c'est-à-dire des classes de banlieue où étaient rassemblés les gosses ne pouvant suivre une scolarité dite normale. Donc il a été éducateur de rue et on le trouve dans la maison de la culture de Saint-Maur-des-Fossés. Premier recueil de poésie 1968, Le charnier déductif. Avant, il avait fondé la revue Le Point d'être dans la mouvance du surréalisme. Premier récit écrit à la même époque, Armel ou l'éternel retour, qui ne paraîtra qu'en 89. En 74, il publie son premier roman, Un rêve de glace, Albin Michel, histoire avec un personnage extrêmement étrange, nécrophile, héroïnomane, et que je vous conseille de lire. Et en même temps, une histoire sublimée, donc très belle. Il pratique une écriture multiforme, donc comme je viens de vous le montrer sur ces deux feuilles, roman, recueil de nouvelles, essais sur l'art et la littérature, pièces de théâtre, recueil de poèmes. Il a une fascination pour le fantastique, pour l'imaginaire, le mythe contemporain, il pratique les jeux littéraires, il a un savoir encyclopédique de la littérature, de l'art d'écrire, et il organise avec ses jeunes, au début, des ateliers de littérature, parce qu'il s'est un fervent de la technique d'Oulipo, un peu, non ?
Pas l'Oulipo. L'Oulipo participe, bien sûr.
Participe.
Mais bon, c'est...
Voilà.
Le surréalisme aussi. Hein,
voilà. Et il pratique ses ateliers d'écriture dans les écoles de banlieue, dans les prisons, dans les hôpitaux. Il publie des catalogues de livres d'art, notamment sur René Magritte. Il expose des dessins, des peintures à Paris. Et parmi ses dernières parutions, Le camp du bandit mauresque, Récit d'enfance, Fayard 2006, Nouveau magasin d'écriture aux éditions Zulma 2006, Nouveau magasin d'écriture 2007, Palestine, Zulma 2007, et Oxyde de réduction, qui est un recueil de poèmes chez Dumerchais en 2008. Donc, voilà très brièvement résumé le parcours de cet écrivain qui adore les mots. Et je vais demander aux membres du jury de commenter leur choix, pourquoi avoir remis ce prix à Hubert Haddad. Et je vais commencer par le dernier lauréat de ce prix, enfin l'année dernière, oui. Wilfried Nsonde. Vas-y.
Okay. Bonsoir. Alors, j'ai aimé ce livre parce que c'est un bon livre. Hein. oui. C'est un livre qui a une langue qui est forte, c'est un livre qui a une langue qui est belle, puis c'est un livre qui prend des risques parce qu'il s'attaque à un sujet douloureux. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, je suis pas un spécialiste de littérature, donc je ne peux pas en faire une analyse précise. J'ai pris du plaisir. C'est un très très beau texte. C'est un texte qui est fort. Je vous le conseille fortement. Voilà.
Merci Wilfried Nsonde. Donc cette fois-ci, je vais à l'ordre alphabétique à l'envers. Monsieur Lionel Trouillot. Parler dans le micro autant que faire se peut. Merci.
Pour Michel Posé, oui, Vénus, merci.
Oui.
François Deloy. Pourquoi ce livre ? C'est difficile à. D'abord parce que je crois qu'on l'a tous aimé, c'est un livre qui a quasiment fait l'unanimité. Il y a un critique littéraire qui disait que la littérature ne parle jamais que d'elle-même, mais que pour parler d'elle-même, elle parle toujours d'autre chose. C'est pour dire que écrire, c'est toujours une proposition formelle, une réflexion sur le langage. Mais cette réflexion sur le langage s'accompagne d'une réflexion sur les éléments de la vie, les éléments du monde. Et je crois que ce livre a réussi cette adéquation entre la proposition formelle et l'inquiétude humaine. Et pour moi, c'est ça la littérature, c'est ça la grande littérature, tout simplement.
Toujours l'alphabet à l'envers, donc Jean-Marie Gustave Leclésio, s'il vous plaît.
Oui, c'est vrai que c'est un livre très fort et qui touche un drame terrible de contemporain, un drame qui concerne tout le monde, qui pour lequel tout le monde a un sentiment, a une opinion. Et ce qui est formidable dans ce livre, c'est que justement, il ne tranche pas et c'est un livre qui ne donne pas une version. C'est un livre qui fait vivre de l'intérieur les complications, les complexités de ce drame. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du livre, mais c'est une substitution de personne. C'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. Et donc, il y a du fantastique dans ce livre. Et je disais d'ailleurs à l'auteur qu'il m'avait fait penser, ce livre m'avait fait penser à un film qui est peu connu de Lubitsch, qui s'appelle en anglais Broken Lullaby, en français Le jour où j'ai tué un homme. Et ce film raconte donc l'histoire de quelqu'un qui prend la place d'un autre. Mais bon, l'histoire que raconte Hubert Haddad est complètement différente. C'est quelqu'un qui perd la mémoire et qui croit qu'il est un autre. On lui fait croire, et finalement tout le monde a envie qu'il soit un autre. Tout le monde a envie que ce jeune Israélien qui a été capturé par qui a été capturé par des Palestiniens au cours d'un raid, et en réalité un Palestinien qui a disparu. Donc il prend la place de quelqu'un qui a disparu, il découvre une famille, il a perdu la mémoire lui-même, découvre une famille et doit accepter cela. Et on ne sait pas jusqu'à quel point c'est joué et jusqu'à quel point c'est sincère. Et on a vraiment là, on touche au cœur du problème qui est posé en Palestine, c'est que ce sont deux peuples cousins, ou même peut-être frères, deux peuples sémitiques, qui sont sur la même terre et qui doivent trouver un moyen de s'entendre. Et le seul moyen de s'entendre, c'est que l'un prenne la place de l'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut échanger la personnalité. Et je crois que Hubert Haddad, avec ce thème fantastique, a touché aussi à quelque chose de philosophique. Et comme disait Lionel Trouillot, c'est cette conjonction de la littérature et du besoin que nous avons de vérité qui fait un grand livre. Donc voilà pourquoi je pense que c'est un grand livre. Et je crois que c'est un livre qui marquera, qui laissera une trace durable.
Merci Jean-Marie Gustave Le Clézio. Pascal Kramer, s'il vous plaît.
Alors, c'est difficile d'arriver après ça, mais pour moi, ce qui fait la qualité d'un écrivain, c'est bien sûr le style, mais bien au-delà, c'est la singularité du regard et la sincérité. Et je dois dire qu'à cet égard, tous les textes qu'on nous a donnés à lire, enfin pratiquement tous, avaient au moins ce mérite, même s'ils avaient des défauts, d'être véritablement incarnés, et on sentait dans ces livres une totale sincérité. Et donc, pour moi, c'est la sincérité et aussi le risque pris, qui justement peut être le risque d'une sincérité absolue. Et je crois que le livre d'Hubert a vraiment cette qualité-là, en plus, effectivement, d'une langue absolument remarquable. Mais il a pris un risque, et un risque au plus profond de lui-même. Enfin, c'est quelque chose, on sent qu'il a vraiment voulu nous transmettre une vérité absolue qui est la sienne. Et c'est ça qui fait les grands livres. Et donc, effectivement, le livre d'Hubert est un très grand livre.
Merci Pascal. Un livre qui doit sûrement vous toucher, vous, la proximité du lieu de ce drame, Madame Vénus Kourigata.
Ah oui. Oui, je suis libanaise et mon pays a beaucoup souffert du problème palestinien. Il nous a touchés. Mon pays était en guerre à cause du fait qu'il y a un peuple de trop pour un pays en moins. Il y a deux peuples qui revendiquent la même terre. Les uns l'appellent Israël, les autres l'appellent la Palestine. À qui faut-il la donner? À qui faut-il céder ces terres? Le problème palestinien est un problème qui trouvera sa solution un jour. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas de quelle manière. Mais ce qui m'a touché beaucoup dans ce livre, à part qu'il y a deux langues qui sont parlées dans ce livre. Il y a l'hébreu, il y a l'arabe, mais qui sont tous les deux coulés dans la même langue française. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que dans ce livre, les femmes sont fortes. Même la femme aveugle, elle donne, elle héberge cet homme qui peut lui valoir la destruction de sa maison. Sa fille, elle va se battre comme un homme, alors que les hommes sont plus fragiles. Et j'aime ça. J'aimerais dire aussi que nous pensions tel livre, on avait deux livres dans nos cœurs. C'est vrai que Palestine était très beau, surtout pour moi. Et puis, Jean-Marie Le Clézio n'étant pas là, on nous dit... Ils votent pour Palestine seulement. Et tous, Palestine, fini. Cet homme nous a toujours ensorcelés. Voilà.
Ben, bravo. Merci, Vénus Kourigata. Et donc, la présidente, Madame Lise Bissonnette.
Puis ben, j'espère, en tout cas, que les membres du jury présents ce soir vous ont donné l'envie de lire Palestine, parce que il faut le. Je crois que oui. Hein, bon, oui, je crois que c'est fait. Là. Je crois que c'est fait. Mais vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'une œuvre mince. Hein, qu'il s'agit vraiment d'une œuvre qui va chercher très très loin au fond de nous-mêmes, et que nous avons tous des raisons très différentes de l'avoir aimé. Moi, j'ai trouvé cette aventure vertigineuse dès la première page. J'étais absolument sidérée. Ce fait divers qui est presque rien, en fait, c'est ça, cette personne qui se substitue à l'autre, et alors même qu'il allait prendre congé, puis en cette journée de congé, il s'apprêtait comme ça à ne rien faire, ou il manque son autobus, et puis hop, ça y est, sa vie bascule. Et c'est du génie de pouvoir partir d'un incident aussi petit, aussi ordinaire dans une vie, et tout à coup de basculer dans cet univers justement où on ne sait plus. J'ai beaucoup aimé aussi le côté fantastique de la chose, bien que ce soit un fantastique possible, qui n'est pas un fantastique facile, en tout cas. Et il me semble que Hubert Haddad n'a pas voulu résoudre la question. Vous vous rendez bien compte que d'appeler un livre Palestine, ça pourrait être un traité, un essai. Hein? On le verrait sur une table, on pense que c'est un essai sur la Palestine, c'est un roman. Et d'avoir trouvé, par la voix romanesque, une façon de nous faire sentir ce qui se passe là, c'était assez extraordinaire. Et ce qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est, d'une part, que moi, je trouve que tout est impossible dans ce livre et qu'il n'essaye pas de le résoudre. Il nous laisse à la fin, par nous-mêmes, continuer cette histoire, ou en tout cas imaginer des choses, ou peut-être ne pas les imaginer, ce qui est extrêmement courageux, parce que quand on lit un livre, on s'attend à ce qu'il y ait une conclusion. Il n'y en a pas, et c'est magnifique. Et bon, Vénus a parlé, ça me donne envie de dire quelque chose, c'est que des personnages, des femmes et tout ça, moi, c'est la description de cette terre, de ces paysages détruits et ravagés par les humains, hein, finalement. Il y a des pages là-dedans qui sont d'une beauté absolue et en même temps d'un tragique absolu.
Merci, Madame Bissonnette. Vous avez entendu ces propos, Hubert Haddad?
Oui.
Comment vous réagissez? Comment vous défendez-vous?
Eh bien, je n'ai plus qu'à me taire, à me faire tout petit.
Non, d'ailleurs, je pensais que quand je... Madame Bissonnette parlait toujours de ce titre, d'un pays qui est un livre. Moi, je me demande quelquefois, on s'est dit, je me souviens quand j'étais étudiant, sous mai 68, l'armée malgache nous saisissait le rouge et le noir. Parce que le rouge et le noir, c'était sûrement le livre de Mao, un truc comme cela. Alors la Palestine, on se dit, est-ce qu'on peut passer certaines frontières avec ce livre dans sa valise? On ne se ferait pas arrêter, etc.
Pour moi, Palestine, pourquoi Palestine? D'abord parce que c'est le nom de l'héroïne. Elle s'appelle Falastine. C'est le nom de l'héroïne, là, qui, évidemment, mais aussi parce que ma grand-mère, Baya, est très vieille, et j'étais tout jeune. Israël venait à peine de naître. Ben Gurion a appelé Israël. Ben Gurion, et on a décidé que ce pays s'appellerait Israël, mais il aurait pu s'appeler autrement. Mais les vieux juifs du Maghreb, quand ils pleuraient sur le retour, ils disaient la Palestine, ils écoutaient la musique arabe, et puis je me souviens bien de ma grand-mère Baya qui disait Palestine, la Palestine. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre Palestine, et surtout parce que c'est Palestine.
Bernard, on m'a demandé de vous poser quelques questions, donc je me plie à ce jeu. Alors j'ai discuté avec des jeunes pas plus tard qu'hier soir de votre roman Palestine, et ces jeunes m'ont parlé d'un film qui a passé à Montréal en fin de semaine. Vous le connaissez sûrement, Le sel de la mer, de la réalisatrice palestinienne Anne-Marie Jassir, qui a été interdit d'entrer en Palestine par l'armée israélienne pour tourner la dernière scène de son film, qu'elle a été obligée de tourner à Marseille. Et ce film a été sélectionné à Cannes. Mmh. Et l'histoire... n'est pas celle dans votre livre, mais il y a des propos qui se rappellent. Donc ces jeunes ont attiré mon attention sur ce film. Alors j'ai dit, vous avez une question à poser à M. Haddad? Et ils m'ont dit, outre la dimension tragique de la situation au Moyen-Orient, quelles sont les circonstances qui ont mené ce monsieur à écrire ce roman?
Les circonstances, c'est que je me considère et je suis un juif arabe. Je suis né en Tunisie avec une famille, des gens qui ne parlaient qu'arabe. S'ils étaient restés, je serais parmi eux comme je vivrais comme un arabe, un peu comme aujourd'hui la communauté qui reste à Moussouk, à Djerba. C'est des arabes c'est des juifs dimisés qui sont là probablement avant l'invasion arabe. Qu'est-ce que c'est? Et puis qu'est-ce que ça veut dire arabe? Il y a 20 000 cavaliers qui ont déferlé. Et tout ce monde-là a été arabisé. Il y a des berbères. Il y a des berbères qui parlent arabe. Et parmi les berbères, il y a des musulmans, et il y a des juifs, quelques chrétiens. Saint Augustin, par exemple. Et c'est un berbère. Lorsqu'il a fallu partir, ils sont partis. Pourquoi? Ils auraient peut-être dû rester. Mais c'était des gens très simples. Mes parents, mon père était... il est très... toute ma famille était... on leur a dit, maintenant, il faut partir, c'est dangereux. Ils sont venus, ils sont partis en France. Et déjà, ils avaient le sentiment qu'il faudrait partir. Il y a ça, comme ça, chez les juifs d'ici et là, le sentiment qu'un jour ou l'autre, il faut partir. Alors, ils nous ont donné des prénoms formidables, des prénoms très français. Ils nous ont... Hubert, René, c'est mes frères, Edgar, voilà, parce qu'ils se sont dit, plus avec ces noms-là, ils sont protégés. mais par ailleurs, on a un deuxième prénom. L'un s'appelle Hamous, l'autre à moi Abraham, l'autre Sissi. Donc on a, mais le prénom de façade, c'est il faut. Hein, voilà. Et ils n'ont pas voulu nous enseigner, nous donner ce qu'ils savent. Si, ils nous ont donné tout. Mais, par exemple, l'arabe, ils ne voulaient pas. Ils gardaient l'arabe pour eux. Alors, je le comprends. Bien entendu, je le comprends un peu. Mais je ne le parle pas. Et c'est un désespoir pour moi de ne pas le parler. J'essaye. J'ai un tas de livres. Mais j'ai un mal fou. Ah, il faudrait qu'on m'envoie en résidence pour que je l'apprenne. Je crois que je l'apprendrai très vite. Et j'avais une partie de la famille est partie en Israël et est partie vivre là-bas. Mon frère Michael, lui, il est parti il avait 18 ans. Il s'est marié, il est parti dans un kibboutz à 18, tout jeune. Il est parti dans un kibboutz plein de... il était trotskiste. Enfin, il était avec une femme trotskiste plutôt.
Quelle idée! Quelle idée!
Lui, il était plutôt anarchiste. Et il est parti là-bas. Au début, c'était magnifique. Et puis, très vite, il a compris toutes les déchirures et tout le non-dit et toutes les contradictions. Il était peintre. Il peignait déjà. Il s'est enfoncé. Les contradictions deviennent écrivain, poète, peintre. Plus la contradiction est forte et plus c'était la peinture qui a compté. Il est allé à Jérusalem et il a même enseigné à l'université. Aux Beaux-Arts à Jérusalem. Et puis, il y a eu là une perdition. Il a perdu une grande... il a tout abandonné. Il a abandonné tout ce qu'il avait. Et il est allé vivre dans une cabane. La cabane que je décris à la fin, parmi les oliviers de Jérusalem, arabe, au-delà. Et il vivait là, seul, et peignait. Et des gens me disaient qu'ils vivaient en communauté avec un serpent venimeux qui était là. Et ils étaient tranquilles tous les deux. Le serpent ne lui a jamais fait de mal et mon frère n'a jamais fait de mal à ce serpent qui avait... Il vivait en communauté. Et un jour, il a scié un morceau de sa maison. Il est venu à Paris et il est allé chez mon frère René. Il a acheté un fusil au bazar de l'hôtel de ville. Il s'est arraché la tête. Et... Michael, et d'une certaine manière, ce livre, c'est lui. C'est lui. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça vous dirait pourquoi j'ai écrit Palestine.
Merci.
Merci de cette explication. Et surtout, vous avez dit, j'ai vu ça sur le site de votre éditeur, quels sont les livres qui valent l'arbre de leur papier. Je pense que ce livre n'usurpe pas l'arbre sur lequel le papier est fait. Je vous demanderai, vous avez accepté, je sais que les auteurs n'aiment pas toujours lire leurs textes. Un extrait, est-ce que vous acceptez?
Je veux bien, bien sûr.
S'il vous plaît. Est-ce que je vous laisse choisir sinon...
Vous l'avez choisi?
Ben, j'ai choisi plusieurs, vous prenez ce que vous voulez. J'ai choisi plusieurs, mais je vous laisse le choix parmi.
Mais je lis, vous l'avez ouvert là, je lis là.
Si vous voulez.
Un matin, comme prévu, le ferrailleur avait conduit Nessim à travers les vignes, les friches et les chantiers déserts. Au premier checkpoint, après avoir grimpé vers la ville par des sentiers de muletiers, la présentation des papiers fournis par Falastine suffit au passage, après 2 heures d'attente derrière une petite foule silencieuse d'ouvriers loqueteux, d'étudiants et de paysannes chargés de couffins. Derrière les barbelés, on faisait circuler les Palestiniens par groupe de 5 en comptant un âne pour une tête. Ils assistèrent sans broncher à la mortification d'une vieille femme qui venait d'exhiber ses chevilles enflées aux soldats. « Allez, passe, y'a là, y'a là, y'a là !» avait lancé en arabe une recrue d'à peine 20 ans. À proximité du grillage, le conscrit l'arrêta d'un geste impérieux pour lui ordonner cette fois de reculer. « Rour, rour, rour !» Tout réjoui, il contraignit la vieille qui sanglotait d'humiliation à recommencer 3 à 4 fois cette pantomime. Quant à la 5e, Nessim voulut intervenir, la poigne du gitan l'arrêta net. D'un signe de tête, ce dernier lui désigna des factionnaires, fusils en joue, postés sur le remblai. « Ils n'hésiteront pas, » dit-il, en rallumant son mégot avec une mèche d'amadou. Au second checkpoint, plus encombré encore, un sous-officier, chut de sa guérite entre 2 blocs de béton, interpella Nessim pour un contrôle personnalisé. Blond, l'œil d'un bleu d'acier, il examina avec suspicion les papiers d'identité, confrontant de longues minutes les photos à l'original. Une fois Nessim déshabillé, il s'intéressa tout particulièrement à la cicatrice encore vive de l'épaule, ronde comme une pièce d'un shekel. Le soldat recula de quelques mètres, la main sur son pistolet. « Je ne peux pas jurer que tes papiers sont faux, mais ça, pas de doute, c'est un impact de balle. » Rhabillé, le suspect fut conduit vers un commande-car blindé garé devant un hangar. On allait le menotter quand une jeep vint se ranger à proximité. Les soldats, dans leur routine, accueillirent d'un bref salut l'officier de section. « Encore un élément suspect, » déclara le soldat blond, en brandissant le laissez-passer de Nessim. « Relâchez-le, » décida le gradé, après un bref coup d'œil sur les papiers. « Impossible d'en coffrer un seul de plus aujourd'hui. » Passé à son tour, le gitan, qui patientait à distance, s'essuya le front du revers de la main. Il regarda Nessim comme un miraculé. Tous deux poursuivirent leur avancée sans plus d'encombre, malgré les blocs de béton, les barrières métalliques et les rouleaux de barbelés qui obstruaient certains quartiers périphériques en bordure de la vieille ville. Évidemment, si on lit un passage comme ça, tout d'un coup, on ne voit que le jeu de checkpoint.
Ouais.
Et que donc, c'est pas évident de,
oui,
lire un extrait d'un roman. Mais je vais pas vous en...
Non, vous verrez. Bravo. Merci. Je vous pose une dernière question, avec votre permission, parce que vous travaillez énormément sur l'écriture, etc. Mm-hmm. Et vous avez dit que vous êtes un passager, l'écrivain, que vous êtes un passager clandestin de la réalité, un vrai trafiquant des chimères. C'est une jolie formule.
J'ai dû écrire ça quelque part.
Oui. Oui.
un écrivain comme il est, on n'est pas dans l'adéquation avec la réalité convenue, bien entendu. Un écrivain dans cet espace étrange de la symbolisation, et qui est un espace auquel finalement on ne revient pas, et qui pourtant, si on y revenait, nous effraierait. C'est un abîme, c'est le lieu de l'absence, le lieu où on nomme l'absent à tout moment, et cet espace, ce lieu, cet espace abyssal de la symbolisation, c'est celui de tous, c'est de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, nous sommes tous, nous serions tous écrivains. Il n'y a pas un humain, un homme qui échappe, un enfant, dès lors que nous sommes dans l'espace même de la symbolisation, c'est-à-dire c'est un créé, nous sommes tous dans le même lieu et nous sommes probablement tous le même avec des variations de l'ordre de la nuance. C'est-à-dire que c'est la nuance qui fait la culture. De l'un à l'autre, toute culture n'est... la culture, les civilisations, ce n'est que la nuance. Il n'y a pas... il n'y a rien d'autre que la nuance qui fait qu'on puisse se distinguer les uns des autres. Du point de vue de Mars, d'un martien, personne ne ferait la différence, du point de vue de Mars, entre le plus savant et l'idiot du village, entre Einstein et lui. Non, puisque dès lors qu'on participe de la symbolisation, après, nous allons faire, nous, des hiérarchies, des exclusions, mais c'est très étrange, tout ça. Alors l'écrivain le sait, l'artiste, et chacun l'est à un moment ou à un autre de sa vie, ou en permanence, ou à défaut. Mais en cela, face au discours convenu, face aux affirmations de tous ordres qui voudraient mettre des barrières, nous sommes des clandestins, oui, bien sûr, nous n'avons rien à voir avec les effets de pouvoir, d'où qu'ils viennent.
Merci, Bernard. Comme le temps tourne vite. Comme le temps tourne vite, je vais passer à un autre volet du questionnement de ce soir, avec votre permission, mesdames et messieurs. Nous sommes en pleine semaine de la francophonie, sommet de la francophonie, remise du prix de la francophonie. Donc la francophonie, on a l'impression en ce moment qu'elle s'archipélise, qu'il n'y a plus de sommet, il n'y a plus de hiérarchie, etc. Il n'y a pas de centre, les centres sont partout. Vu justement la provenance de vous tous et la diversité de vos œuvres. On parle souvent, quand on lit les rapports officiels, quand on regarde quelquefois la presse, recul de la langue française. Or, quand je regarde cette librairie, quand je vois ce que vous faites, quand je vois ce qui est publié, on se dit, est-ce que cette vivacité de la langue française partagée, elle n'était pas reflétée par vos œuvres? Et je condense avec une troisième question. Mais est-ce que sous ce beau vernis, il n'y a pas d'autres problèmes? Parce que l'édition, ce n'est pas quelque chose de facile. Déjà, dans les pays du Nord, les éditeurs, les libraires vous disent que c'est très dur. Maintenant, pensez dans des pays de la marge, enfin, si on peut parler de marge ou de périphérie, et des pays du Sud. Donc, il y a toujours une inégalité qui persiste entre l'édition au Sud, la circulation Nord-Sud, ou la circulation, vous qui travaillez vers les États-Unis, pour imposer certaines choses sur certains marchés, etc. Je vous livre ces questions en vrac et je vous laisse répondre ou intervenir. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose.
Je n'ai pas compris la question.
Oui, je sais. Je n'ai pas mis de question, justement. Alors, je vais vous demander, à vous, je vais commencer, si, au niveau des éditions, je sais que ça vous intéresse, les éditions, la circulation...
Justement, le prix des cinq continents de la francophonie est une réponse à ce que vous venez de dire, puisque... Il s'efforce de casser ce système où il y a quelques éditeurs, des éditeurs en place et qui ont un pouvoir et qui imposent un certain type de littérature. Et là, on a justement par la grâce de ce jury, jury populaire, je ne parle pas seulement du jury que nous représentons, les 12 membres du jury fixe de ce prix, mais tous ces jurés, tous ces lecteurs qui préparent le déchiffrement et qui nous donnent leur premier choix, répondent à cette question, puisque en fin de compte, ils viennent d'horizons divers. Ils ne sont pas influencés par le journalisme central, ni français, ni québécois. Ils ont un regard qui est assez libre, en fin de compte. Et c'est pourquoi parfois leurs choix sont nous plonge dans un certain désarroi, parce que nous sommes devant des textes qui nous paraissent très différents de ce que nous demandons à la littérature. Mais peut-être qu'ils répondent à cette question de qu'est-ce que la littérature en dehors des critères officiels de la littérature. Peut-être les questions qui sont posées justement par certains de ces livres, qui sont parfois posées maladroitement, mais elles incitent à une nouvelle forme de littérature, une forme différente, à une nouvelle langue, à moins de contraintes formelles, moins d'académisme. Donc, je crois que ça, c'est pourquoi ce prix est si important.
Merci. Lionel Trouillot, vous voudriez réagir dessus ? Non ?
Oui, je dirais que j'aimerais bien qu'on remarque un peu ces maisons d'édition qui sont nées au Liban. Surtout que le Liban, pendant la guerre et quand il pleuvait des bombes sur Beyrouth, ça continuait à être la capitale des publications. On continuait à publier. Je me rappelle, j'avais traduit des poètes français et je téléphonais à l'éditeur libanais. Je lui disais, alors, où est arrivée cette anthologie ? Il me disait, je n'ai pas d'électricité, madame, pour que je puisse publier ce livre. Je publie chaque jour, mais après, on me coupe les yeux. Je disais, faites-le à la main, mais terminez-le. C'est pour vous dire que même sous les bombardements, ils continuent à publier. Mais malheureusement, dans les sélections, je ne vois jamais un seul livre qui vient du Liban. Et ça me tord le cœur. Et c'est un autre problème. On essaiera de trouver la solution. Merci.
Merci. Vous voulez intervenir ?
Juste un petit mot. J'aime beaucoup le prix des 5 continents de la francophonie. Et je crois que appelons ça le pessimisme ambiant, est parfois mal placé. En fait, depuis des années, les écrivains de la francophonie, appelons-la comme ça, en tout cas des pays de langue française, se connaissent entre eux. Je suis toujours étonnée de voir, bon, quand on arrive ici à Montréal, ils ont tous leur réseau, Vénus arrive et connaît la moitié de la ville, bon, Jean-Marie aussi, bon, c'est ça, et d'autres, parfois, ils arrivent en Haïti, Lionel, c'est pas mal non plus, et puis, bon, ils se sont tous rencontrés quelque part, quand c'est pas à Maurice, c'est dans un festival en Haïti ou ailleurs, nous aussi au Québec, on fréquente beaucoup, j'en ai rencontré en Guadeloupe, et puis... Et c'est un monde qui fonctionnait assez sur lui-même, hein, bon, et qui là est en train de faire un peu des brèches dans l'édition française, franco-française, et c'est assez intéressant ce qui se passe. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté du lecteur. Et Jean-Marie Leclésio disait, bon, parfois, on regarde le livre, on n'est pas acculturé à ces nouvelles façons de s'exprimer. Et je crois que le lecteur a encore une hésitation. Là, je parle parce que les lecteurs, je les vois beaucoup, hein, bon, j'en vois beaucoup de milliers, et puis qui passent chez nous. Et c'est très difficile. Et je pense qu'il faut ne pas penser seulement aux éditeurs, à ces malheureux éditeurs qui ne font pas tout ce qu'on veut et qui ne publient pas tout ce qu'on veut, et aussi au système du marché qui ne reçoit pas bien aussi les petits éditeurs. Mais il faut aussi s'intéresser au lecteur qui a parfois de la difficulté à franchir ses frontières. Et là, on en est là. Quand je regarde un peu ce qui se lit et ce qui se publie, il se publie beaucoup de choses dans l'espace francophone, on a encore de la difficulté à amener le lecteur à lire ces choses. Nous, on les lit, il faut qu'on les lise, on nous les présente. Donc, et chaque fois, on fait des découvertes extraordinaires. D'autres fois, on est un peu interloqué, on se demande si vraiment... Bon, il y a une sorte de choc des imaginaires là, qui, pour moi, parfois, est un peu pénible. Mais pour l'ensemble des lecteurs, il y a encore un pas à faire, et je ne sais trop comment, mais il faut que les écrivains s'interrogent là-dessus.
Lise, là tu parles d'amener le lecteur au livre, mais je crois que dans la plupart des pays francophones, les lecteurs sont pauvres. Il faut amener les livres au lecteur. Et ça c'est vraiment un problème. Il y a une circulation inégale des livres écrits en français et c'est un vrai problème. Le lecteur, le pauvre lecteur haïtien qui n'a pas beaucoup d'argent, il ne connaît pas tout ce qui s'écrit, il ne connaît pas la moitié de ce qui s'écrit en français. Ça, c'est un véritable problème. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de contacts, de relations amicales, entre les écrivains, mais il y a des lecteurs qui sont défavorisés par rapport à d'autres. Et ça, c'est un vrai problème.
Merci. Je regarde l'heure. Je me tourne, si vous permettez, vers Jean-Marie Gustave Le Clézio. Parce que vous venez de faire un immense cadeau à la francophonie, à nous tous les francophones, je tiens à vous le dire. Vous venez de faire un immense cadeau au Québec. Vous arrivez en tant que membre du jury du prix de la francophonie au moment où vous avez ce prix Nobel. Et je me permets de vous saluer à la manière haïtienne en vous disant grand nègre, honneur, respect. Par ailleurs, 4 pays se réjouissent. 4 pays se réjouissent et se targuent de ce prix Nobel. La France, qui vous a vu naître dans ses confins à Nice. Maurice et sa cadette, la petite île Rodrigue, en raison de vos origines mauriciennes, mais aussi des accents d'indianocéité qui parcourent une partie de votre œuvre. Le Mexique, où vous avez longtemps habité, sur lequel vous avez beaucoup écrit, notamment j'ai la cosmogonie maya et aztèque, et sur la civilisation préhispanique. Enfin, le Maroc, qui dit avoir reçu un prix Nobel par alliance. Tout cela compte pour vous, Jean-Marie Le Clézio.
Oui, c'est vrai que je suis très reconnaissant à devant de tels compliments. Et justement, hier, quelqu'un me disait que les Indiens Purépecha ont salué ce prix qui m'a été donné parce que j'ai publié un petit livre en espagnol qui se vend sur les marchés et qui s'appelle « La conquête divine du Michoacán », dans lequel je parle de l'histoire des Purépecha, des Indiens du centre du Mexique. Et donc, je crois que pour moi, c'est important d'avoir ces échos, et j'en suis très reconnaissant. Je voudrais tout de même dire aussi quelque chose par rapport à ce que Lionel Trouillot a dit. C'est vrai qu'il a tout à fait raison. Le grand drame des deux tiers de l'humanité, c'est de ne pas avoir accès facilement aux livres. Si on prend juste l'exemple de cette petite république qu'est l'île Maurice, le prix d'un livre publié en France représente très souvent l'équivalent des dépenses d'une famille pendant un mois. C'est très difficile d'acheter un livre. Et la solution, il y a plusieurs, on peut trouver des solutions, mais ces solutions, il faut qu'on s'y mette tous. Et je pense que c'est très important de les considérer maintenant. Il faut que les éditeurs, par exemple, qui publient des livres en France, mais aussi ceux qui ont publié au Québec, acceptent des coéditions avec les pays concernés, de façon à ce que dans ces pays, les livres coûtent moins cher. Il y a aussi le Bibliobus, qui est un merveilleux outil. Il y a tout autour de Maurice des villages où les jeunes ont envie de lire des livres. Un des moyens de lire les livres serait justement leur apporter les livres, ce que suggérait Lionel Trouillot. Et donc, demander de l'aide pour acheter des bus, parce qu'un bus, ça coûte cher. Après ça, on peut fournir les livres. Et il y a toutes sortes de moyens, donc on peut les trouver, ça n'est pas difficile. Il faut simplement s'y mettre tous. Et je crois que c'est la leçon que donne aujourd'hui le prix des 5 continents, c'est qu'il faut que nous soyons ensemble, qu'il y ait une cohésion, que nous n'avons pas la même chance, tous n'ont pas la même chance. C'est une chance d'écrire en français, puisque quand on écrit en français, on est distribué. Lorsqu'on écrit en créole, et Lionel Trouillot le sait, c'est beaucoup plus difficile d'être lu. À Maurice, il y a aussi des gens qui écrivent en créole. Et je crois que le rôle de la langue française, c'est aussi de soutenir les éditions et la culture dans des langues autres, les langues qui n'ont pas les mêmes chances de distribution. Ici, au Québec, ces langues existent. Je pense à Rita Mestokocho, qui est une poétesse inoue, qui voudrait écrire en inoue. Son instinct la porte à écrire en inoue. Elle écrit en français parce que c'est un moyen de pouvoir communiquer. Donc elle a une reconnaissance à l'égard de la langue française, parce que ça lui permet d'écrire, de publier. Mais en même temps, il y a ce léger regret qu'on ne reconnaisse pas à la nation inoue le droit de s'exprimer dans sa langue, que ce soit si difficile. Donc je crois que le rôle de la langue française, ici au Québec, mais dans tous les pays où l'on pratique cette langue, c'est de soutenir aussi les, ce qu'on appelle d'une façon un peu dédaigneuse les minorités linguistiques. C'est son devoir, parce que la langue française a les moyens et elle a ce pouvoir, donc elle a cette justice aussi à rendre. Enfin, c'est un des combats que nous devons mener, je crois.
Bon, mesdames et messieurs, je puisse votre message et tout ce que vous avez dit soit entendu et mis en pratique, nous l'espérons. Et je vais demander à la salle s'il y a des questions adressées à notre lauréat, Hubert Haddad. Vous avez la parole, il y a un micro. Alors, la seule chose que je demanderai, c'est des questions relativement brèves pour qu'on puisse prendre plus de questions et avoir plus de réponses. Merci.
D'abord, j'aimerais apporter un peu d'eau à votre moulin ou à notre moulin. Au Maroc, par exemple, il y a des livres qui viennent de France, mais qui sont édités au Maroc et qui coûtent 15-20 dirhams, justement pour permettre aux Marocains d'avoir accès aux livres de langue française. Alors moi, j'aimerais poser une question à M. Le Clézot par rapport au livre d'Hubert Haddad. Vénus disait que vous avez tout de suite voté pour le livre Palestine. Si le livre s'était appelé Israël, est-ce que vous aurez aussi voté ?
Ça, c'est une question politique. Je ne vais pas répondre à cette question. Hubert Haddad a très bien répondu. Palestine, c'est le nom de la personne, de l'héroïne du roman. Et j'ai senti que, à la fois dans le choix de cette héroïne, de son nom, et dans la dimension, je veux dire, poétique, fantastique du roman, on échappait justement à cette question politique qui ne va pas trouver ici ce soir sa solution et qui est très grave parce qu'elle coûte des morts de part et d'autre. Il y a des cruautés des deux côtés et il y a beaucoup d'horreurs qui ont été commises. Ce n'est pas ici et maintenant que nous allons trouver la solution. Mais ce roman apporte, à mon avis, un espoir et c'est pourquoi je l'ai beaucoup aimé. Il apporte cet espoir de cet échange, le fait de changer de personne, c'est-à-dire se mettre, comme on dit vulgairement, à la place de l'autre. Voilà peut-être un début de solution qui n'est pas politique, qui est simplement humain et philosophique.
Palestine, on retrouve la première fois qu'on trouve ce mot de Palestine, c'est dans Hérodote. C'est dans Hérodote. Palestine, ça vient probablement des Philistins. Oui. Et lorsqu'il y avait un pays, enfin, fort, toute la région, et on la déclinait comme ça. Ensuite, c'est les Romains qui ont appelé cette région la Palestine pour nier, pour rejeter, évidemment. Israël et le royaume de Juda parce qu'ils étaient ils voulaient complètement les anéantir. C'est revenu après il y a eu les chrétiens, après il y a eu les turcs, évidemment il y a eu l'islam, les ottomans, il y a eu Byzance. Et puis la Palestine, les autochtones, c'était la Palestine pour eux. Mais ça n'a jamais été une nation. Il y avait des gens qui habitaient là, c'était la Palestine. Et puis on appelait ceux qui habitaient là des Palestiniens. Et avant, au début à la fin du 19e siècle, il y avait des communautés juives et des communautés chrétiennes. C'était des Palestiniens tous. Après, il a fallu, à la fondation de l'État d'Israël, il y a eu deux drames. Il y a eu deux drames. Le premier, c'est que en 1947-1948, qu'ils aient refusé. Le monde arabe ait refusé l'implantation. La paix aurait pu se faire, quelque chose aurait pu se faire d'emblée. On comprend qu'ils refusent, mais c'était la dernière, la dernière expression de la guerre, de l'horrible guerre européenne, du massacre, de la plus épouvantable guerre qu'on ait jamais imaginée. On n'a pas imaginé ça à Carthage de l'époque du monstre Baal où on jetait les enfants dans une espèce de monstre de bronze au nom du dieu Baal. On n'a pas imaginé ça jamais. Et là, évidemment, ce qui s'est passé, c'est dans une espèce de vertige insensé de cette guerre mondiale et dont le retour s'est produit là. Si il y avait eu un accord négociable et les territoires étaient assez vastes pour les Palestiniens, la deuxième tragédie, la deuxième erreur, là on appelait ça la Nakba, la catastrophe, hein, c'est l'équivalent de... Dans l'esprit des mondes arabes, du monde palestinien, c'est de ce qui s'est passé en Europe. C'est 67. Les pays arabes ont déferlé sur Israël. Ils voulaient, sans trop faire attention à la réalité du peuple palestinien, ils ont été vaincus. Israël a pris les territoires tenus par les pays arabes. Il aurait dû. Dans l'année, l'occasion était parfaite, les rendre aux Palestiniens. Et non, Israël a occupé tous ces territoires. Et depuis 67 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même, c'est pire, ça s'est empiré. Mais c'est ça les deux drames, dont on ne sort pas.
Oui. Il a raison de dire qu'on est passé à côté d'un accord. À un moment donné, ils auraient pu s'entendre. Mais entre-temps, il ne faut pas oublier Birzeit, Dar Yassine. Il y a un peuple qui a été victime d'un génocide, Auschwitz et tout ça. Et il est devenu bourreau lui-même de notre peuple. Et quand on parle, je vais donner le simple exemple de Dar Yassine, des gens qui avaient accepté d'être sous domination des Israéliens. Ils étaient dans un village, ils prenaient tous les jours le camion pour aller travailler sur les terres des Israéliens et revenir le soir. Entre-temps, un couvre-feu est décrété. Celui qui rentre après 5 heures de l'après-midi est abattu, mais on n'avait pas informé tous ces ouvriers qui devaient rentrer dans leur village. Ils ont été abattus. Il y a 1000 autres exemples, comme Dar Yassine, comme Birzeit, comme d'autres. Il y a des fautes de part et d'autre. On ne va pas revenir sur ça. Tout ça est très douloureux, mais il y a un peuple qui a été victime d'une immense injustice, qui est devenu lui-même bourreau à un moment donné, et maintenant il ne sait plus comment s'en sortir parce qu'il est en train de s'humaniser. Il a envie de trouver une solution, mais entre-temps, les Palestiniens, eux, entre eux, sont devenus les bourreaux l'un de l'autre. Ils ne veulent plus de cette paix. Ils ne savent plus vivre en paix parce qu'il y a l'islamisme qui est venu se greffer sur le problème palestinien et le djihadisme et la Qaïda et tout ça. Et voilà, ce n'est ni Hubert ni moi-même qui allons pouvoir trouver une solution à ce problème.
Le wahhabisme, c'est au XVIIIe siècle. Tout ce qu'on voudrait mettre sur le... De l'islam, c'est des caricatures. C'est au XVIIIe siècle qu'il y a eu ce durcissement, ce fou, cette folie. Hein. Et il y a une incompréhension, une mécompréhension de l'islam au 10e siècle, du 8e siècle au 11e siècle, il était rayonnant. Et c'était l'humanisme dans la Méditerranée, ici et là. Il y avait un vrai humanisme de l'islam.
Merci de me dire ça. Ça fait plaisir.
Non, je dis ça comme ça.
Je suis une arabe, au fond.
Il y a un micro, madame, s'il vous plaît. Si vous. Non, vous pouvez parler, on répétera la question.
Est-ce qu'on a le goût, hein, de se retrouver, qu'on puisse se rencontrer, se dire ce qu'on ignore de l'autre. Moi, je vais retenir ça sûrement. Ce que j'aimerais dire à M. Haddad, présentement, comme toute la planète d'ailleurs, on vit un grand drame économique hein, avec toute cette crise financière qu'on pense à ça et qu'on n'endort plus bien souvent. Bon, mais vous savez, quand j'aurai à quitter cette planète, ce n'est pas de cela que je vais me rappeler. Je me rappellerai sûrement de ce que vous nous avez dit ce soir. Et sur la question de la Palestine, je vous en remercie beaucoup, parce que tantôt, je crois que c'est la dame qui l'a dit, c'est un problème qui devra être résolu un jour et qui va se résoudre, mais qui va se résoudre quand nous nous y mettrons toutes. Je vais retourner à me reposer la question, M. Haddad, parce que moi aussi, je veux comprendre. Parce que c'est notre drame à nous toutes et à nous tous. Je vous en remercie.
Est-ce qu'on peut créer les parallèles entre Palestine et le roman Étoile errante? Je n'ai pas encore lu hein, Palestine, donc je vous écoute.
Entre, je
n'ai pas entendu. Étoile errante et le roman Palestine, avec ce point de vue humaniste, d'éviter la politique, de parler de la souffrance dans les deux camps, n'est-ce pas?
J'ai écrit Étoile errante parce que quand j'étais enfant... Avec ma mère, nous étions réfugiés dans un village de montagne. Et non loin de là, à peu près à 6 km de ce village, se trouvait un village qui s'appelle Saint-Martin. Dans ce village, les Italiens d'abord, puis les Allemands par la suite, avaient regroupé une grande partie de la population juive de Nice. Et à un moment donné... Dans 1943, les Allemands ont décidé de rafler toute cette population juive qui était abritée dans ce village. J'étais enfant, je ne l'ai pas su, j'étais trop petit de toute façon. Ma mère, elle l'a su, elle m'en a parlé longuement. Elle m'a parlé même de choses qui ne sont pas dans les livres d'histoire, qu'une partie de cette population était passée par Berthemont-les-Bains. Et que, poursuivis par l'armée allemande, ils avaient été fusillés dans un champ. Je suis allé voir ce champ et j'ai eu envie vraiment d'écrire ça parce qu'il m'a semblé que ce drame dont tout le monde parle en Palestine avait sa racine beaucoup plus loin et que cette fuite de ces gens et la mort de ces gens dans ce champ avait en quelque sorte préparé tout ce qui allait suivre. Donc j'ai écrit Étoile errante pour ça. Et en même temps que j'écrivais ce roman sur cette population qui avait tenté de fuir la montagne pour passer de l'autre côté et de là s'embarquer en Italie à Livourne pour se rendre une partie au Canada, l'autre en Israël, qu'en même temps que j'écrivais ça, je lisais dans les journaux à partir de 1947-48, tout ce qui s'était passé en Palestine. Et là, j'ai appris comment s'étaient passées les déportations de population, les gens sur les routes, la prise de Saint-Jean d'Acre, et comment les gens attendaient sur la plage, ne sachant pas où aller, les rumeurs qui couraient de règlements de compte, de massacres, d'exactions, qui faisaient que la population, petit à petit, s'en allait, fuyait. Et j'ai imaginé que, donc, il y aurait deux personnes, une qui s'appellerait Esther et l'autre qui s'appellerait Nejma, ce qui veut dire la même chose, et qui se croiseraient à un moment donné de cette histoire. Voilà pourquoi j'ai écrit ça. J'ai écrit ça il y a déjà bien longtemps, et à l'époque où j'écrivais ça, c'était le moment de la première intifada. Entre-temps, la situation s'est beaucoup détériorée. À l'époque où j'écrivais ça, je pensais qu'il y aurait un accord quelque part, que Jérusalem deviendrait une ville internationale, peut-être, enfin sous mandat international, c'est-à-dire une ville qui serait offerte au monde comme une possibilité de réconciliation. Ça n'a pas eu lieu, et je ne sais pas si ça aura lieu. Dans l'état actuel des choses, on peut tout craindre, on peut craindre qu'il n'y ait jamais vraiment de solution, que ce soit une sorte de guerre à outrance menée jusqu'au point où les peuples n'ont pratiquement plus d'existence. Vous connaissez peut-être ce dicton péruvien que je trouve très, très fort, qui dit « Dans la guerre, le vaincu est vaincu et le vainqueur perdu ». Et j'ai peur qu'on aille vers ce dicton pessimiste des Indiens à l'arrivée des Espagnols. Mais je mélange peut-être tout. Mais je laisse la parole à Hubert.
Ce que je veux dire, c'est que autant pour le roman, pour l'Étoile et l'Ange, pour Palestine, c'est qu'il ne faudrait pas un roman. Si on écrit des romans, c'est pour témoigner d'une complexité, d'une telle complexité. Et dans le roman, on arrive de manière étrange, oblique, musicale, à essayer de mettre en place et de comprendre les enjeux et de ne pas tomber dans le manichéisme, et dans le discours le premier, celui qu'on est obligé. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on vient ensuite parler de romans qui ont des implications politiques, mais sociales, politiques, eh bien, on est obligé de défaire le roman pour revenir à des discours qui sont simplificateurs. Alors, que faire ? Peut-être, il aurait fallu lire des poèmes de Mahmoud Darwish et des pages de David Grossman et puis essayer de croiser tout ça. Bon, la seule chose que moi je peux dire, c'est qu'il y a de part et d'autre des centaines, des milliers de gens de bonne volonté qui travaillent et pour la paix. Il faut faire attention de ne pas tomber j'ai vu. Je me suis promené dans des endroits où je me suis retrouvé avec des gens très bien, mais des altermondialistes, c'est des gens vraiment très... Mais certains m'ont sorti des propos qui m'ont rappelé ce que je pouvais entendre quand j'étais gosse de pire, et qui était violemment raciste. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut faire tomber absolument la haine et penser que tout est en évolution et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'éliminer Israël ou de faire abstraction des Palestiniens. Nous sommes dans cette réalité. Et cette réalité, c'est nous qui l'avons fait. L'Occident, la France, l'Europe, l'Allemagne, cette réalité, c'est le résultat du colonialisme, c'est le résultat d'un tas de guerres et de... Bon, maintenant, il faut aller vers le plus de justice et les gens de bonne volonté, il y en a beaucoup dans le monde, il y en a beaucoup en Israël et beaucoup de Palestiniens et d'Israéliens travaillent ensemble. Et puis des gens de tous bords et de partout. Et il faut travailler à la justice maintenant, et sans revenir à des slogans qui sont délétères.
Bon, ben on va terminer ici cette... rencontre, mais elle va se poursuivre dans un instant parce que la maison Olivieri vous invite à partager un verre avec les membres du jury et les écrivains ici présents. Je vais commencer d'abord par vous remercier, vous public lecteur, d'être venus si nombreux, remercier les lauréats et les membres du jury du prix des 5 continents de nous avoir fait l'amitié et la générosité de leur temps et de tous leurs propos. Madame Lise Bissonnette et la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et toute votre équipe, parce qu'il y a un gros travail derrière tout cela. Frédéric Bouilleux, directeur, ainsi que Myriam Saint-Gorba du service langue française, diversité culturelle et linguistique de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est la cheville ouvrière aussi de cette rencontre. Mémoire d'Ancrier et Rodney Saint-Éloi, qui malheureusement est pris avec un lancement ailleurs, qui n'a pu être parmi nous. Et enfin, Rina Olivieri et toute son équipe de la librairie qui nous accueille. Donc, merci à vous tous et bonne soirée, bonne lecture. Merci.